RCF. Deux pianos à queue, côte à côte, de grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière, des portraits de Beethoven, Mozart, Bach, mais aussi une icône orthodoxe du Christ. Bien, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Fondation Résonance, basée en Suisse, à Morges, près de Lausanne. Et c'est vous, Elisabeth Sombart, qui avez créé cette fondation en 1998. Une fondation qui a pour vocation d'offrir la musique classique là où elle n'est pas. Les hôpitaux, les prisons, les orphelinats, les maisons de retraite. Alors Elisabeth Sombart, vous êtes pianiste, concertiste internationale et habitée par un vrai désir de transmission. Alors merci de nous accueillir pour que nous fassions connaissance avec vous, mais aussi que nous découvrions votre approche de la musique. La musique, vous le savez, elle est omniprésente dans nos vies, dans les magasins, dans les aéroports, dans les oreilles des adolescents. Et vous, vous déclarez, la musique appartient au monde de l'invisible. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots ?
C'est-à-dire que le mystère de la musique, on va parler ici de la musique classique, peut-être pas de ce qu'on entend dans les magasins, ou qui est souvent plutôt un bruit sonore que de la musique. Le mystère et le cadeau, le secret de Dieu dans la musique classique, c'est que justement, il ouvre cet espace intérieur de gratuité, de générosité, de silence, d'où naissent les sons et où retournent les sons. Et donc, paradoxalement, c'est par la musique et l'expérience d'écouter une œuvre de musique que la porte de cet univers intérieur peut s'ouvrir, qui est celui du silence. Et l'invisible, c'est dès le début, vous voyez, dans un son, quand on fait l'expérience d'écouter une note, on croit qu'on entend une note, mais en vérité, elle vient déjà avec toute sa famille d'harmoniques, dans laquelle il y a le secret de l'accord majeur qui nous dit que le fondement d'un son est la joie. Et la joie, il suffit de le dire comme ça. D'ailleurs, Jean-Sébastien Bach terminait presque toutes ses œuvres en mineur avec l'accord majeur à la fin, pour nous rappeler justement que la nature du son, comme la nature de l'homme, est avant tout cosmiquement joie et paix et harmonie.
Vous êtes étonnée toute petite, je crois, par la puissance de la musique et du son. Et effectivement, vous aviez déclaré un jour, mais pourquoi la musique peut nous donner de la joie et pourquoi la musique peut nous donner de la tristesse ? Pourquoi les sons peuvent nous donner de la joie ? Pourquoi des sons peuvent nous donner de la tristesse ? Et on le ressent énormément en écoutant de la musique classique. On peut être emporté par une forme de tristesse, de mélancolie, ou au contraire, être dans la joie.
Oui, d'une certaine manière, la chute, c'est-à-dire cette brisure de symétrie dans laquelle nous vivons, est consolée dans la musique classique, est réparée dans la musique classique. Parce que la musique classique est basée sur les deux modes, gai et triste, donc majeur et mineur. Comme je le disais tout à l'heure, la nature du son est majeure. L'homme a inventé la vibration qui permet de la rendre triste, de la rendre nostalgique, de décrire cette brisure, ce paradis perdu. Quand on arrive à la fin d'une œuvre, la musique, et c'est ça qui m'a fascinée depuis toute petite, c'est qu'elle pouvait décrire toutes les couleurs de l'âme. Pas juste ce qu'on peut se dire quand on parle, ou on peut exprimer beaucoup de choses, et bien sûr les poètes ou les très grands écrivains le font avec un raffinement souvent comparable à la musique, mais jamais égalé. Mais c'est que justement, elle a ce pouvoir de décrire cela, et donc finalement, de nous dire que nous ne sommes pas seuls. Parce que qu'est-ce qui permet à l'homme de continuer ce chemin qui est si difficile, c'est la relation. Et la relation veut dire quelque chose qui comprend et qui console l'inconsolable et qui fait qu'on se dit, tiens, quelqu'un d'autre a vécu cela. Quelqu'un d'autre peut comprendre cela. Oui.
Et là, Elisabeth Sambar, vous nous le dites avec expérience, parce que je sais que toute petite, vous avez vécu une expérience comme cela, sous le piano de votre maman.
Oui.
Alors j'aimerais bien, vous l'avez déjà partagé plusieurs fois, mais je crois que ce moment a été essentiel dans votre vie. Vous aviez moins de 7 ans, vous aimiez vous mettre sous le piano de votre maman pour l'écouter jouer, et vous avez vécu une expérience très forte. Vous voulez bien nous la partager ?
En fait, c'était une expérience que je n'aurais pas décrit ça, bien sûr, de cette manière à l'époque, mais j'ai appris qu'il y avait plusieurs mondes dans le même monde, qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de mon père. Quand j'ai lu cette phrase, beaucoup plus tard, je me suis dit, mais c'est vrai, puisque je vivais avec une famille, je vivais... dans un pays, dans un endroit, dans un jardin.
Vous étiez à Strasbourg, avec vos trois frères et sœurs,
à la campagne, etc. Voilà. Et puis, il y avait un autre monde, qui était celui du monde de la musique. Ce monde que, sous le piano, j'ai découvert. Et j'ai su... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'incarner quand j'étais petite. Comme on dit, j'ai eu du mal. C'était pas facile. Mais là, tout était facile. Là, tout était possible aussi.
Sous le piano, c'était un refuge en fait, c'était un refuge, un cocon quelque part, qui rassurait la petite fille.
Ça me rassurait, mais en même temps, c'était immense. Parce que ça ouvre des perspectives qui dépassent tout. On a dit tout à l'heure, ça dépasse les mots, ça dépasse les sentiments qu'on peut décrire, ça dépasse même la Terre, parce que c'est vraiment cosmique, d'une certaine manière. Et donc, j'entrais là dans un monde... où l'échelle de valeur et les arguments d'autorité, tout ce qu'on vit normalement, n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de restriction au sens de la liberté d'être intérieurement. Et ça, c'était le cadeau que j'ai reçu.
Ouais. C'est ce qui vous donnait envie de jouer vous-même de la musique? Vous avez eu envie, grâce à votre maman, le fait de la voir jouer du piano? Elle n'était pas professionnelle?
Non.
Elle jouait pour le plaisir?
Non, je pense pas que ce soit lié... comment vous expliquer sans que ça paraisse bizarre? C'était évident pour moi que je serais pianiste.
C'est évident.
Que je ferais de la musique.
Tout de suite.
Que je serais au piano. Et, oui. D'ailleurs, maman m'a pas fait commencer vraiment le piano comme mes autres frères et sœurs. J'ai dû demander... En fait, hein, c'est pour vous dire...
Oui, vous n'avez pas commencé à 4-5 ans, comme certains enfants. Vous avez commencé vers
7 ans. Oui, oui. Mais vraiment à ma demande. Mm-hmm. Mais j'y allais en cachette, avant.
C'est encore plus désirable, non?
Sans doute.
Pourquoi le piano, en fait, et pas un autre instrument? Vous auriez pu jouer du violon, du violoncelle? Quel rapport
j'ai fait du violoncelle plus tard dans ma vie en plus, parce que j'adore le violoncelle. Mais comme dit Liszt, le piano, c'est le roi des instruments. Il y a tout. C'est l'orchestre. Voilà. Donc, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir ce piano à la maison, petite. Et donc, c'était pas un meuble pour moi. C'était une personne qui est multiple, qui... Et vous savez, je me souviens quand j'étais toute petite, avant même de prendre des leçons, j'allais au piano, je touchais les touches et je sentais bien que il y avait là quelque chose d'un miroir de l'âme. Ça, je le savais. Et je dis souvent, le piano nous renvoie exactement à ce que nous sommes. On joue comme on est. Et c'est aussi d'ailleurs un des cadeaux que nous offre cet apprentissage, c'est de nous montrer nos peurs, de nous permettre de les dépasser. Hein, parce que le geste est épiphanique s'il est débarrassé de la peur. Hein, donc c'est tout ce chemin royal que nous permet l'apprentissage du piano, de la musique.
Thank you. paysages, RCF.
Elisabeth Sombar, le fait de jouer avec un grand plaisir quand on est enfant est, je pense, assez différent quand on décide d'entrer au conservatoire et d'en faire son métier, de devenir une pianiste professionnelle. Tous les artistes me l'ont dit à ce micro, c'est travail, 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 c'est solitude. Vous l'avez oui. vécu cela, vous l'avez éprouvé.
Oui, oui, bien sûr. Et en plus, moi j'ai dû lutter avec la peur, le manque de confiance en moi, hein, qui pour des raisons biographiques comme ça, de l'enfance, est resté longtemps, encore aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est une empreinte qui reste sur vous toute une vie. Et il y a un tel décalage entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et l'image que vous donnez, ou que les gens se font de vous, les projections qui peuvent être faites sur vous. Et j'ai dû apprendre beaucoup aussi par rapport à ça. Quand on est petit, on n'a pas le trac, on n'est pas, on n'a pas la conscience de ce qui est le trac. Au fond, c'est le bon trac, parce qu'il y a le mauvais trac aussi, mais le bon trac, c'est lié quand même toujours au désir de perfection.
Et au regard des autres, non?
Non, ça c'est le mauvais. Ça c'est le mauvais trac. Ouais. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à quelqu'un de vous rendre heureux ou malheureux, alors vous n'êtes pas encore vous-même.
C'est pour ça que les enfants n'ont pas de trac, dites-vous.
Oui.
Mais il est apparu à quel âge le trac chez vous?
Le trac apparaît à peu près chez tout le monde et chez moi aussi vers 12 ans, comme ça. 11, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus.
Vous avez donné votre premier concert public, vous aviez 11 ans, je crois.
Oui, mais justement, maman m'avait envoyé, enfin ma professeure de piano au conservatoire de Strasbourg, m'avait envoyé à Paris pour passer le concours Albert Lévesque, Jean-Sébastien Bach. Et ça a été déterminant pour plusieurs raisons, cette expérience, parce que j'ai compris qu'un jour je ferai une école, ce que j'ai fait.
Où nous sommes, ici, en oui. Suisse, à Résonance.
Sans examen, sans limite d'âge, sans compétition, parce que quand vous comparez un enfant à un autre, vous tuez un des deux, et au nom de la musique, on ne peut pas faire ça, ça ne sert à rien.
C'est pour ça que vous détestez les concours.
Je déteste pas, je pense que je pense que ça n'a rien à voir avec la musique, c'est quelque chose qui a été créé avec peut-être l'industrialisation. Mais il y a des gens qui jouent très bien au concours, mais qui jouent pas bien s'il n'y a pas de concours. Donc je veux dire, ça n'a pas de sens musicalement. Comparer quelqu'un à quelqu'un d'autre n'a pas de sens.
Vous en avez souffert quand vous étiez plus jeune, parce que vous êtes passé vous aussi par
bien sûr, tout le monde
les
en
concours,
a souffert.
Les examens.
Ma professeure disait c'est une bête de concours. Je me souviens, elle disait ça à ma mère, j'avais, je sais pas, 13 ans. Mais j'ai compris beaucoup plus tard ce qu'elle voulait dire. C'est que elle voulait dire elle travaille pas assez, et puis quand il s'agit de jouer le jour de l'examen, tout à coup, voilà, il y a la grâce du moment. Mais on travaille quand même beaucoup. Moi, je ne savais pas ce que c'était un week-end ou des vacances. Au contraire, dès qu'il y avait le week-end ou les vacances, on pouvait travailler plus tranquillement. On n'avait plus besoin d'aller à l'école et faire des choses qui me semblaient totalement inutiles.
Vous avez déclaré un jour, dans une interview que j'ai lue de vous, « J'avais un sentiment de culpabilité si je ne travaillais pas. »
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, comme dit Franz Liszt, très justement, il dit la vocation n'est pas quelque chose qu'on choisit. La vocation, c'est quelque chose qui s'empare de vous à un moment donné, et vous savez que le don est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais auquel vous devez répondre. Il y a cette partie-là, hein, le don, c'est certaines personnes disent c'est 5% et puis 95% de travail. Non, je pense que le don c'est 100% et le travail aussi 100%. Et le travail répond à ce sentiment de responsabilité qu'on a même petit, de se dire, parce qu'on sait qu'on doit répondre à quelque chose qu'on a reçu qui ne nous appartient pas.
Vous avez eu ce sentiment très
tôt? Ah oui,
je l'ai
toujours su.
Tout de suite. Ouais. Vous aviez quelque part une mission à travers la musique.
Oui, absolument.
Et à travers ce don qu'il vous avait été fait de jouer et d'apprendre avec beaucoup de travail, mais avec une certaine facilité. Oui. J'ai entendu votre maman disant que vous appreniez vite, très très vite, beaucoup plus vite que vos frères et sœurs.
Oui, mais bon, ça c'est... Vous savez, c'est comme quand vous avez fait un concert où vous trouvez que vous n'avez pas très bien joué. Vous êtes inconsolable, même si le public est debout à vous applaudir. Rien ne peut vous consoler. C'est un peu du même ordre. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour répondre encore à votre question d'avant, le sentiment de culpabilité, il y a le bon, là aussi, sentiment de culpabilité, et le mauvais. Le bon sentiment de culpabilité, c'est simplement cette expérience intérieure qu'il y a en nous, plus grand que nous, qu'on ne sait pas, qu'on ne nomme pas, mais qui vous pousse au piano, à travailler. Et puis, il y a le mauvais sentiment de culpabilité qui peut venir avec les années, qui est celui de s'en demander trop, de n'être jamais content de ce qu'on a fait. Mais finalement, les journées ont 24 heures et on ne peut pas travailler plus que 10 heures ou je ne sais pas. Enfin, alors, on apprend avec le temps à faire la part des choses par rapport à la culpabilité.
Et vous avez toujours ce sentiment aujourd'hui que vous devez partager votre talent, votre don, vous devez jouer pour les autres, vous devez leur faire aimer, découvrir la musique et surtout ce qu'elle contient, cette ouverture vers le monde de l'invisible. Vous avez toujours cela en vous ?
C'est comme une urgence. Je dis toujours, quand j'avais fait les émissions à l'époque de Bac à Bartok pour la télévision, bon, ce qui m'a toujours mu, c'est comment faire pour faire connaître au plus grand nombre la beauté de cette musique. Mais au nombre vivant ou mort, parce que là, pendant la pandémie, j'ai installé un piano au funérarium parce que je me suis dit, il faut que je leur tienne compagnie. D'abord, ils sont morts tout seuls, ensuite, ils sont tout seuls là, donc il faut que j'y aille, il faut que j'aille jouer. Donc j'y suis allé tous les jours pendant des mois, quelques heures par jour pour leur tenir compagnie, pour les aider à comprendre, un, qu'ils étaient morts, deux, que je sais pas.
Les vivants n'avaient pas le droit d'être auprès de leurs morts.
Bah, vous vous rappelez pendant
presque
la pandémie.
Oui, bien sûr, je me souviens. Oui.
Aucune dictature n'avait réussi ça.
Et vous êtes allé même, donc, tous les jours jouer, oui. Vous avez installé un piano, vous avez l'autorisation de le faire, vous alliez jouer tous les jours auprès de ces personnes défuntes.
Oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire ça ?
Ce qu'on a dit tout à l'heure, la même urgence de la musique classique a comme vocation, à part l'émerveillement, une sorte de consolation éternelle, une sorte de force intérieure qui la dépasse elle-même, parce qu'attention, il ne faut pas faire de la musique classique une idole non plus, hein, c'est un chemin. Comme disait Haydn, je crois, c'est le bruit que fait la porte du paradis quand il s'ouvre. Quand elle s'ouvre la porte.
Mais ce n'est qu'un
bruit. N'est pas le paradis. D'accord. Ouais. Mais vous savez, Thierry, nous, on passe notre vie à jouer des morts, soi-disant. Chopin, Bach, Beethoven, Schubert, Mozart, soi-disant morts. Mais à un moment donné, on ne fait plus la différence entre les vivants et les morts. Quelquefois, là, quand j'ai préparé les concertos de Beethoven, je me dis, il faut absolument que je l'appelle, il faut que je lui demande pourquoi. Et puis je me dis, ah ben, je ne peux pas lui demander comme ça, il faut trouver un autre biais. Tellement les morts sont présents dans notre vie comme vivifiant notre propre vie, en fait. Et quand je joue pour des personnes mortes, je sens bien qu'elles ne sont pas mortes, puisque je sens que la mort est un passage de l'âme.
Donc vous jouiez pour leur âme, en fait, quelque part. Ces personnes
qui étaient
défuntes dans ce funérarium tout près d'ici, à Morges, elles étaient pour vous vivantes. Vous jouiez pour leur âme,
même si
plus personne n'était là autour d'elles. Dans ce contexte du Covid, vous jouiez pour elles.
Oui,
pour
mais il y avait beaucoup de monde là, je peux vous dire. Beaucoup d'âmes, Oui, c'était magnifique. Vous savez, moi, j'ai le sentiment que quand on part brutalement dans une sorte d'incompréhension, parce qu'il y a eu beaucoup de gens après avec qui j'ai parlé, quand les familles pouvaient un peu revenir, etc., qui disaient, je sais pas, par exemple, ma mère n'est pas morte du Covid, mais enfin, on a dit que c'était ça, alors donc nous, on n'a pas pu aller la voir. Et je me disais, c'est ça que je ressentais quand je jouais, c'est-à-dire une espèce de stupeur d'âme. C'est-à-dire que les gens mouraient de solitude, de tristesse, d'abandon. Et au début, les trois premiers mois même, je me rappelle, les gens ne venaient même pas voir leurs défunts. Non. Ils étaient là, il y avait 15 cryptes, alors j'ouvrais les portes, je disais, je viens vous jouer du piano. Et après, j'ouvrais plus les portes. Je me disais, t'es bête, t'es pas obligé d'aller
Il n'y a pas besoin d'ouvrir les portes.
Mais voilà, c'était une manière aussi d'être, de prier pour eux comme ça. Et je crois que quand on part brutalement comme ça, la première demeure qu'on connaît, c'est son corps. Et je sens bien que, voilà, la musique... Vous savez, comment je sais ça ? Je sais ça parce que dans tous les concerts que j'ai pu faire, il y a une journaliste qui a calculé une fois que j'avais fait 3187 concerts de solidarité, c'est-à-dire de porter la musique dans les lieux où elle ne va pas, et notamment dans les soins palliatifs. Et je me rappelle qu'à Paris... J'ai déjà raconté cette histoire, peut-être que je ne vous la raconte pas là, mais...
Si, si, allez-y.
Il y avait un endroit où on allait jouer dans le 15e arrondissement, comment ça s'appelle, c'est Jeanne Garnier, ça s'appelait.
L'hôpital Jeanne Garnier.
Je suis allée beaucoup jouer là-bas. Il y a une très jolie chapelle où ils amènent les malades. Et je me souviens qu'un jour, je jouais là, j'étais arrivée un peu en avance, et il y avait déjà une femme sur un lit... qui avait demandé, paraît-il, on m'a raconté ça après, à ne pas manquer ce concert. Mais elle ne parlait plus, elle était dans une sorte de coma, ou de, je ne sais pas. Et il y avait sur elle elle était reliée à un tuyau, qui faisait un bip très particulier. Et je me suis dit, heureusement que je suis venue plus tôt, parce qu'il faut que j'intègre ce bruit quand je joue. Parce qu'il y a beaucoup de bruit qu'on a dû intégrer. Les téléphones portables qui sonnent, les gens qui toussent, les objets qui tombent. Mmh. Mais tout ça, quand je joue,
ça ne vous dérange plus.
Ne me fait pas revenir sur Terre.
Parce que j'imagine que dans les prisons, les maisons de retraite, avec des enfants handicapés, vous devez en avoir des bruits parasites, comme on dit.
Tout à fait.
On n'est pas dans le silence d'une salle de concert.
Non, il faut trouver le silence autrement, en justement accueillant ces bruits, les reconnaissant et on les intègre. Et là, je me suis dit, donc je dois intégrer celui-là, je ne le connaissais pas, ce bip. Mais quand j'ai fini le concert, je me rappelle, j'ai terminé avec la berceuse de Chopin, sur le dernier accord, le bip s'est arrêté. Et jamais j'ai eu l'impression d'un silence aussi bruyant qu'à ce moment-là. Et j'ai regardé vers elle, elle était donc morte à ce moment-là. Je me suis levée, je suis allée vers le lit. Elle était comme dorée. Elle avait une larme comme ça sur la joue. Moi, je lui ai pris la larme. Et elle avait eu ce qu'elle avait désiré, c'est-à-dire mourir, partir dans la musique. Et le bip s'est arrêté à la fin du concert. J'ai joué 45 minutes, pas plus, dans ces endroits-là. Et je terminais avec la berceuse. Et c'est sur le dernier accord de la berceuse. Mais vous savez, c'est paradoxal, parce qu'on aurait pu se dire, là, tout à coup, il n'y avait plus le bruit, entre guillemets, de ce bip, de cette machine. Et ce silence a fait un bruit que je n'oublierai pas. Parce que c'était le bruit de toute la communication des inconscients, de tout ce qu'on ne se dit pas matériellement, mais qui est là et qui fait vivre.
Elisabeth Sombart, qu'est-ce qui vous a fait décider un jour de non seulement mener votre carrière de pianiste internationale, jouant dans les grands concerts, mais aussi d'aller jouer, comme vous venez de nous le dire, auprès de personnes âgées, dans des prisons, avec des personnes handicapées? Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a fait sortir, on va dire, du grand cursus classique d'interprète de musique classique? Il y a eu un événement.
Je peux vous donner deux réponses. Une qui ne m'est pas favorable et l'autre qui n'est pas non plus. La première, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, parce que j'étais une pauvre chose, hein, je peux vous dire, j'avais tellement peur, j'ai été, je sais pas, la presse s'en est pris à moi, là, il y avait des gens, des articles incroyables, enfin, on me faisait lire, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tellement de...
Donc c'était non, critique, là.
Oui, j'ai été la cible de... Surtout quand j'ai fait ces belles émissions, là, avec Peter Knapp, sur France 3, les bacs à Bartok, là, j'ai été vraiment la cible de choses tellement... Alors, je ne comprenais pas.
Attendez, vous avez quand même connu les grandes salles de concert, les
Non, oui, bien sûr.
Ouais, vous avez connu ça.
Je les ai connues.
Mais vous avez été très violemment critiqué aussi.
En France, pas ailleurs, mais surtout en France. Et finalement, c'est ce que j'ai écrit à ces quelques personnes qui ont... Je leur ai dit, je voudrais que vous sachiez que je vous ai pardonné, pour qu'au moins vous n'ayez pas ça de l'autre côté, mais en tout cas pas par moi. Parce que finalement, avec le temps, sans doute, je n'aurais pas fait certaines choses que j'ai faites grâce à ces épisodes. Mais en fait, pour vous répondre, les choses se sont faites dans ma vie. Je n'ai jamais eu le sentiment de les choisir. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire tellement de choses, alors que, semble-t-il, j'en ai fait, mais je m'en suis jamais rendu compte. En tout cas, c'est pas par vertu, parce que j'en ai aucune, mais toujours par grâce. Et surtout, comme on l'a dit au début, je crois, le maître mot, c'est... Les deux mots dans ma vie, c'est l'émerveillement et la relation. Par exemple, je vous raconte. Je rencontre une dame qui venait toujours à mes concerts, et elle me dit un jour, je pourrais plus venir vous entendre. Oh non, je lui dis, mais pourquoi ? Mais parce que je vais dans une maison de retraite, dans un EHPAD. C'est la première fois que j'entendais ce nom. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben, elle me dit, voilà, alors elle m'explique. Ah ben, je lui dis, mais c'est pas grave, je vais venir jouer pour vous. C'est moi qui viendrai. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai eu aussi des épisodes, moi-même, quand j'étais jeune, où j'ai dû passer du temps à l'hôpital. Et puis, j'ai bien vu que il n'y avait personne qui venait jouer là pour consoler les mamans qui avaient perdu leurs enfants, pour consoler tous ces gens qui souffraient de... j'étais dans le département. Voilà. Alors je me suis dit, mais il faut absolument mettre un piano puis aller jouer. Ça leur fera du bien.
Vous venez d'utiliser ce mot consoler. J'ai l'impression qu'il est important dans votre vie. Pour vous, la musique est consolation?
En tout cas, vous parliez de mission tout à l'heure. J'ai l'impression d'être dans une sorte de ministère de consolation. Je le vis comme ça.
La place de Dieu est importante dans votre vie. Vous m'accueillez ici dans les locaux de Résonance. Il y a une icône, une très belle icône orthodoxe qui est là juste à côté de nous, tout près des pianos. Donc vous n'avez jamais caché la dimension de votre foi, la dimension chrétienne qui est importante. Souvent vous aviez un chapelet au poignet, vous l'avez toujours, ce chapelet autour du poignet. Il y a un lien très intime, très fort chez vous, entre votre foi, votre spiritualité et l'acte de jouer du piano.
L'acte de jouer du piano. Alors...
Je dis ça, oui, j'utilise le mot
je comprends, j'essaye de rentrer dans la sensibilité de votre question, parce que, en fait, dans toute la pédagogie résonance, dans toute cette phénoménologie du son et du geste que j'ai travaillé, dont j'ai fait une synthèse, et toute la pédagogie qu'on enseigne ici, le mot-clé, c'est holistique, c'est-à-dire que, en fait, rien n'existe en soi, à part Dieu. Mais si votre geste ne vient pas d'un mouvement intérieur, d'un souffle et d'une respiration intérieure, eh bien, votre jeu sera mécanique.
Et quand vous dites souffle, c'est aussi le souffle très concret. Hein.
Ah ben, bien sûr.
Respiration.
Oui. Moi, j'ai eu une professeure à Vienne qui m'a enseigné ça, quand j'avais une vingtaine d'années, et je me souviens qu'elle m'a dit, quand je suis arrivée, elle m'a dit, Elisabeth, on ne joue pas du piano avec ses doigts, mais avec le diaphragme.
Wow.
Je lui ai dit, ah bon ? Je revenais d'Argentine, où j'avais passé des mois avec Bruno Gelbert et sa mère à faire la technique de Scaramouche, à travailler. Et elle m'a couché par terre pendant au moins 2 mois, les 2 premiers mois de travail avec elle.
Et pour apprendre à respirer, c'est ça ?
Pour apprendre à respirer. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On prend conscience du désir de vie ou de mort dans lequel on est. Parce que accepter de respirer, c'est accepter de vivre. Et ça, c'est pas rien comme expérience. Mais je crois que tant qu'on n'a pas investi son souffle, de la conscience du souffle, et donc de la conscience qu'il y a dans le souffle plus que le souffle, parce que mes poumons sont capables de respirer, ils avaient respiré 20 ans sans que je sache même comment ça fonctionne, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus fort que juste là. Voilà. Mais après, on comprend que, avec la phénoménologie de la musique, on comprend que même si le phrasé est juste, ou en tout cas l'idée du phrasé qu'on a est juste, s'il n'est pas fait par un geste qui lui-même est la conséquence d'un mouvement intérieur, respiré, débarrassé de toutes les peurs, on n'est pas vraiment encore dans la musique. Donc c'est un chemin de vie, ouais. Ça prend des années.
Mais attendez, parce que là vous dites beaucoup de choses très très importantes, et je voudrais les prendre l'une après l'autre. Le fondement, la base de tout, pour jouer du piano, puisqu'on parle de jouer du piano, c'est d'abord le souffle.
C'est le souffle.
C'est le souffle d'abord.
C'est le souffle, oui.
C'est pas le geste, c'est le souffle.
Non, le geste est une conséquence du souffle.
Donc si on respire pleinement, en profondeur, bien, notre geste sera plus juste.
Alors ça, c'est le tout début. Mais après, il y a toute l'utilisation du souffle et du diaphragme, et donc de l'impulsion intérieure. Et vous comprenez que la force au piano, parce que souvent on me dit, mais tu as une force d'un homme quand tu joues fort. Mais parce que c'est une force qui vient de l'intérieur. C'est une force du chi, ils appellent ça les Chinois. Les Chinois. Après, j'ai appris des choses incroyables. Quand j'étais avec elle, j'ai lu des tas de livres sur les arts martiaux. Il suffisait de mettre piano à la place de tir à l'arc et on comprenait des choses incroyables.
Il faut se mettre dans le hara, comme disent les Japonais.
Oui, mais tout à
pour
fait.
Jouer du piano.
Tout à fait. Et on utilise ça. Et après, c'est très, très pointu. C'est-à-dire que pour jouer très pianissimo, on utilise le diaphragme de cette manière-là. Pas trop, ni pas assez. Ni... On ouvre les costales. Enfin, c'était un monde qui s'est ouvert. C'est une technique extraordinaire. Et là aussi, j'ai été émerveillée parce que j'apprenais avec elle, mais je voudrais répondre à votre question juste avant de Dieu, enfin, si je peux me permettre, c'est qu'il y avait donc de l'invisible dans le visible, de nouveau. Puisque si ce qui fait que le phrasé et le geste et les notes vont devenir musique vient de la manière dont je les respire, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui existe avant, pendant et après, et que ça fait un.
Justement, attendez, vous dites, je vais répondre à votre question sur Dieu, mais en me parlant du souffle, en me parlant du geste juste, est-ce qu'on n'est pas là dans la communion avec Dieu ? Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de prière, dans le geste juste, dans le souffle ?
Moi, je n'ose pas dire que dès que, on répond à un don dont on a compris qu'il est plus grand que nous et qu'il ne nous appartient pas. Dès qu'on répond à « j'étais en prison et vous m'avez pas visité, j'étais malade et vous m'avez pas visité », Matthieu 25, on répond aussi avec notre art à quelque chose qui nous a été demandé, pas pour faire la charité ou pour faire du bien, on ne fait pas du bien, il ne s'agit pas de faire du bien, il s'agit d'être en adéquation avec ce qu'on a reçu et comment on va le donner.
Mais pour faire du bien quand même, pour soulager, pour consoler, pour accompagner.
Oui, mais on ne le fait pas pour ça. On nous dit que ça fait ça, mais on le fait parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait.
Thank you.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors justement, Elisabeth Sombart, j'aimerais bien que vous nous aidiez à comprendre votre conception d'être interprète. J'utilise ce mot qu'on utilise beaucoup dans la musique. Il y a les compositeurs et puis il y a les interprètes. Donc vous, vous êtes une interprète au piano. Mmh. Quel est selon vous le rôle d'un interprète ?
L'interprète donne vie, hein. C'est comme une femme qui va mettre au monde un enfant. Elle ne sait absolument pas ce qui se passe dans son ventre, ni comment le petit pied va se développer, ni rien, elle ne sait rien. Mais elle est l'interprète de ça. L'interprète est celui qui fait que de la mort on passe à la vie. Parce que la musique, si moi je la joue pas, elle n'existe pas. C'est un cahier. D'accord.
Oui, il y a les partitions, mais s'il n'y a pas l'interprète, oui, elle reste silencieuse. Voilà. Quoi.
Donc nous sommes là pour rendre vivant ce qui est mort. Mais en fait, vous savez, tout à l'heure vous avez dit quelque chose. La prière, c'est un état d'être. C'est pas une chose en soi. Et il y a un moment donné où chaque geste qu'on fait est prière. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est prière ? C'est qu'il est offert intérieurement. Comment on sait qu'on est dans l'offrande ? C'est le sentiment de gratitude qu'on a. Et la gratitude, elle se conjugue avec la grâce et avec la gratuité au fond. Mais je crois pas que... Je suis pas allée par exemple au funérarium me disant je vais aller faire du bien, ou je suis pas allée jouer dans des camps en me disant ça. La vie vous offre à un moment donné de ressembler à cela, à une fondation. Mais ne me demandez pas si moi j'ai choisi de faire la fondation Résonance. Moi j'ai l'impression de courir derrière ce que la vie... mais devant mon chemin, et j'ai appris assez vite, heureusement, enfin j'avais quand même 40 ans, que chaque fois que j'ai voulu dire non, il valait mieux dire oui. Donc parce que j'ai beaucoup dit non avant de dire oui, parce que j'avais beaucoup peur, et puis j'étais dans cette fausse humilité de penser que je n'y arriverais pas. Et j'ai compris beaucoup plus tard que la vraie humilité, c'était de prendre sa place, tout simplement, que personne ne peut prendre à votre place.
Alors on va revenir dans un instant sur cette fondation Résonance dans laquelle nous sommes. Et ce que vous faites, c'est intéressant de découvrir les différentes manières de partager, comme vous le faites à travers cette résonance, vous et vos équipes. Mais je voudrais rester un petit moment sur le fait d'être interprète, d'y rencontrer beaucoup de musiciens qui ont des carrières internationales. J'ai jamais senti chez eux quelque chose d'aussi profondément spirituel, enfin exprimé comme tel, de la manière que vous le vivez. Et vous avez déclaré un jour, dans nos métiers, il y a deux chemins. Oui. Le premier utilise la musique pour exalter ce que l'on est. Le second, pour transcender ce que l'on est. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, c'est intéressant. Je vais le répéter, parce que c'est profond, vous connaissez cette phrase, elle est de vous, mais pour les auditeurs, dans nos métiers, il y a deux chemins. Le premier utilise la musique pour exalter ce que l'on est, le second pour transcender ce que l'on est. Vous pouvez nous expliquer, Elisabeth Sombart.
Oui, en fait, c'est très facile à comprendre, parce que... Tous les êtres humains, on a tous fait l'expérience de ressentir de l'amour, séduction, hein, avec beaucoup de compliments, de mièvrerie souvent qui va avec, bon, de la séduction, et puis l'amour vrai. Bon, au piano, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser la musique pour dire qui vous êtes, donc vous n'écoutez pas à la limite ce que vous jouez. Vous allez utiliser ce que vous jouez pour y exalter votre sensibilité, votre peut-être votre originalité, votre voilà. Et puis moi j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui s'appelait Serge Tchilibidac, avec qui j'ai passé 10 ans où j'avais le sentiment, vous savez, comme quand on découvre la vérité, on se dit ça y est, cette fois-ci je viens d'entendre. Je me souviens les cours à l'université de Mayence. Et d'ailleurs, je pourrais vous le montrer au piano un jour. On ne peut pas ne pas se dire « c'est vrai ». Parce qu'il y a un maître intérieur chez tout le monde, auquel tout le monde devrait faire confiance d'ailleurs. Si un concert ne vous a pas plu, c'est qu'il n'était pas bon. Point. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la musique classique. Alors, dans la phénoménologie de la musique, il n'y a pas d'interprétation. Vous êtes là pour révéler des relations qui existent et qu'il faut unifier. Pour le dire rapidement, hein, c'est 700 pages de... Mais donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez le son. Et le maître disait, faire de la musique, c'est transcender le savoir. Je disais, d'accord, mais il faut le savoir pour le transcender. Alors, il y a des gens qui restent dans le savoir, qui se disent, tiens, il y a quelques recettes là que je vais garder, qui font pas le chemin jusqu'au bout, qui est de transcender ensuite le savoir, hein, c'est-à-dire de lâcher prise et de laisser faire. Parce que, on a beau dire, c'est Dieu qui joue. Mais si moi, j'ai pas préparé mes mains, il ne peut pas jouer. Mais, et donc, c'est ça que ça veut dire.
Mais dans le monde de la musique aujourd'hui, dans le monde des concerts, et là, je redescends d'une certaine manière sur des considérations très basiques. Oui. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a de la séduction. Il faut être le pianiste ou la pianiste qui va se faire remarquer, qui va se faire admirer, soit par d'autres aspects qu'uniquement son jeu.
Oui, mais ça, c'est la société du star system dans lequel on est, de l'objet. Hein, les artistes sont devenus des objets qui rapportent. Ça n'a plus rien à voir avec la musique, tout ça.
Ou pour d'ailleurs, se distinguer, parce qu'il y a une telle compétition entre tous les pianistes dans le monde.
Mais finalement, il n'y a pas vraiment de compétition. Finalement, il n'y en a pas tellement. Il y a 60 millions de Chinois qui jouent du piano. 60 millions, c'est le chiffre. Il y en a deux qu'on connaît. Mais pas parce qu'il y a de la compétition. C'est pas la compétition le problème. C'est jusqu'où vous acceptez de devenir un objet de consommation. Ou pas. Combien de concessions vous pouvez faire? Par exemple, je vous donne un exemple récent. Moi, j'avais annulé tous mes concerts où on demandait le pass. Non pas que je suis, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Je suis la petite fille de quelqu'un qui a inventé le vaccin contre le paludisme. Mon arrière-grand-père roumain. Donc, mais l'idée du pass, vous voyez, l'idée que venez et mangez-en tous, ben non, pas tous. Pas ceux qui n'ont pas ça, ou pas ceux qui ne sont pas comme ci. Et donc, je crois qu'il y a des concessions qu'on ne doit pas faire quand on est un artiste. Et dans le monde où on est une valeur marchande, parce que c'est ça ce que vous décrivez.
Bah, quand on est concertiste, un grand concertiste.
Et qui fait que des femmes ou des hommes doivent utiliser d'autres attributs que juste leur talent pour pouvoir exister. Eh bien, c'est la mort de l'art. Et c'est d'ailleurs la mort de l'art dans laquelle on est. Le wokisme n'aurait pas eu, la cancel culture n'aurait pas eu sa place si on n'avait pas été préparé par cette compétition, cette surenchère, cette objectisation de l'artiste comme il a été fait dans les 30-40 dernières années.
Mais Elisabeth Sombart, quand on est artiste, pianiste, violoniste, international, on peut se libérer de son ego, parce
que c'est... On doit.
On doit, mais c'est tellement difficile.
On ne fait de la musique que pour ça. On fait de la musique pour se libérer de devoir faire de la musique. On vit pour se libérer de devoir vivre. Vous voyez, tout est une question de se libérer. Je bois pour me libérer de la soif. Je veux dire, vous ne pouvez pas penser que faire une carrière est une fin en soi. Hein, c'est pas une fin en soi. Et si quelques artistes n'ont pas fait... la grande carrière qu'ils auraient pu. Déjà, cette phrase, elle n'a pas de sens. Ils ont été ce qu'ils devaient être. Vous voyez ?
Thank you.
Elisabeth Sombart, je crois qu'il y a eu un événement en Afrique. Encore une fois, une expérience. Il y a eu des expériences fondatrices dans votre vie. En commençant cet entretien, on a parlé de la petite fille sous le piano de sa maman. Puis il y a une autre fois, en Zambie, je crois que vous avez vécu quelque chose de très fort. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé là et qui, je crois, vous a fait comprendre ce qu'était qu'être interprète.
Oui, bon, c'est lié à beaucoup de choses et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, comprendre que l'interprète est un instrument. D'abord, on joue sur un instrument, mais on est nous-mêmes un instrument qui doit révéler quelque chose qui est plus beau que nous, parce que la musique est toujours plus belle que... Vous savez, souvent, quand on rentre dans cette écoute, on a peur de perdre peut-être sa sensibilité ou ce qui fait de nous quelque chose. Mais je vous raconte un truc. Quand j'ai joué la première fois à Chilibidac, j'ai eu de la chance, il a toujours été gentil avec moi. Pas parce que j'étais meilleure que les autres, mais parce que j'étais la petite fille de ma grand-mère roumaine chez qui il habitait à Berlin. Donc quand il m'a vu arriver, il a dit « Ah, voilà !» Donc j'étais un peu privilégiée.
Donc ce grand musicien roumain, c'est un grand chef
d'orchestre. Oui, c'est un énorme... C'est lui qui est à la base de la phénoménologie de la musique. Et je me souviens, il m'a demandé de lui jouer, je lui ai joué tout un programme, je lui ai joué un magnifique nocturne. Et à un moment donné, il m'a arrêté, il m'a dit « Pourquoi tu fais cette note comme ça ? Pourquoi tu l'as fait pianissimo ?» Je lui ai dit « Je sais pas, je trouve ça beau. » Et il m'a dit « Mais c'est juste de la névrose, ça. Parce que le point culminant, il est là. Et si tu ne vas pas sur ce point culminant, alors tu n'as pas révélé la phrase. » Je me suis dit « D'accord, là, il y a tout à faire. Tout à comprendre. Hein. » Et après... Tout au début de l'interview, vous m'avez demandé en quoi la transcendance ou Dieu, ou peu importe le nom que chacun fait comme expérience intérieure, avait joué dans ma vie, même si aujourd'hui c'est vraiment unifié. Cette expérience en Zambie, ça a été ça. Je me rappelle que c'était le dernier concert de toute une tournée dans les pays africains, hein, le Gabon, le Cameroun, Nigeria, enfin bon, c'était... Et donc le concert était à 20h30, je me souviens, j'étais en bas de l'hôtel à 20h15, parce que j'ai un quart allemand, alors moi j'aime bien être précise, je ne veux pas faire attendre les gens.
On ne l'a pas dit, mais vous avez quatre quarts très particuliers quand même.
J'ai un quatre quarts, pas breton, mais...
Un quart écossais, un quart allemand, un quart roumain,
et un quart géorgien.
Oui. Ouais, on ferme la parenthèse.
Voilà.
Donc là, vous étiez en Afrique.
Alors là, et j'avais mon quart allemand qui fait que j'étais dans l'hôtel à l'heure. Puis j'attends 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h, 21h15. Alors là, je crois que j'étais en train de m'évanouir intérieurement. D'un coup, je vois arriver le chauffeur. Je lui dis, mais vous êtes en retard, on va arriver en retard. Et j'étais là avec... Mais c'est pas grave, on est en Afrique, ma petite dame. Ben, je lui dis, mais non, mais le concert c'est quand même... Mais non, il dit, puis on a une heure de route pour arriver. Une heure de route, je lui dis, mais on va arriver, ce sera fini, tout sera fini. Il me dit, mais non, ils vont attendre, ils vont vous attendre, il y aura un conteur qui va leur raconter des histoires, ne vous en faites pas. Alors nous voilà partis. En des routes caouteuses, dans le noir, il n'y avait pas de lumière et tout. Je me suis dit, bon, ça c'est la fin. Cette fois-ci, c'est la fin. Et alors, on arrive au bout de presque une heure de route, devant un de ces, je sais pas comment on appelle ça en français, des énormes bâtiments, vous savez, qui peut se transformer en salle de sport.
Une salle polyvalente.
Une salle polyvalente, voilà, un truc comme ça. Tout en fer gondolé comme ça.
Comme un grand hangar.
Un grand hangar,
salle polyvalente.
Et il y avait 42 000 voitures placées, mais n'importe comment, les unes qui entouraient ce hangar. Alors, du coup, là où il m'a laissé, jusqu'à la porte du hangar, il y avait de là jusqu'à la maison là-bas, c'est-à-dire une dizaine de mètres. Il me dit, voilà, on est arrivé, la porte est là-bas. Alors, je sors de la voiture, je commence à me faufiler à travers toutes ces voitures. Et je me rappelle quand je suis arrivée devant la porte, j'avais une longue robe blanche de concert, elle était toute sale et j'essayais de nettoyer. Je me disais, mais c'est affreux, maman, mon ours. Alors j'ai ni mère ni ours, mais bon, bref, je me disais dans les moments comme ça. Alors j'ouvre la porte et là, je vois quelque chose d'inouï. La salle était archi pleine et au fond du fond de la salle, il y avait une sorte d'estrade et en effet, il y avait un monsieur, un conteur qui parlait, j'entendais pas, mais qui... Et je sens encore l'écarquillement de mes yeux parce que je regardais la scène, mais je ne voyais pas de piano.
Pas de piano.
Je dis, mais où
pas
le piano?
Pas de grand piano à queue.
Ouais. Mm. Il dit, où est le piano? Là, il y a... Non, je lui dis, là, t'es fatigué, là. Non, ça, ça va pas, ça. Il y a sûrement un piano, donc on se concentre. Et donc, tout en me faufilant à travers ce public compact, dont beaucoup de gens, d'ailleurs, étaient debout, je vois finalement, au fond du fond de l'estrade, enfin, l'estrade, c'est un grand mot, un piano droit, qui était contre une paroi, qui n'avait plus le couvercle en bois, il n'avait pratiquement plus rien, on voyait les cordes et il y en avait une qui était cassée. Je l'ai vue parce qu'elle sortait. Et là, j'ai dit, intérieurement, parce que il y a un psaume qui dit « Je crie vers toi, Seigneur ». Mais en fait, celui qui l'écrit, il crie dedans. J'avais compris ça et je me disais « Mais comment il peut crier dedans ?» Donc j'ai crié dedans, j'ai compris ce jour-là. Et j'ai donc dit « Seigneur, il faut absolument que tu quittes cette salle pendant une heure. Ce concert va être affreux. Ce piano est une casserole. » Mais vraiment, j'avais une espèce de d'angoisse comme ça, de dire mais... Et je ne sais pas pourquoi j'ai les frissons en vous racontant ça à chaque fois que j'y repense, parce que c'était... la vie est toujours plus belle que nous. Ce grave dans mon cœur, je ne sais pas comment vous expliquer, je suis quelqu'un de tout à fait normal, attention, je n'entends pas des voix, mais là... Ce grave dans mon cœur, vous savez, comme les lettres dorées qui passent sur les cinémas, comme ça. Et la phrase, c'était « Toi, tu joues. Moi, je touche les âmes. » Et alors là, ça m'a arrêtée. Et je me suis dit, toutes mes peurs, tout mon manque de confiance, tout ça, à ce moment-là, a disparu. Et j'ai dit, mais c'est merveilleux, mais bien sûr que c'est toi qui touches les âmes, mais comment j'ai pu penser que c'était moi? Ou d'ailleurs, je ne l'avais pas pensé. Mais ça, c'est un deal formidable. Alors attends, alors du coup, ça m'a donné de la force, suffisamment pour dire aux gens, venez, on va mettre le petit piano droit là au milieu, pour que ça fasse quand même un peu concert. Alors il branle-binguait là, c'était, oh là là, je me suis dit, il va pas tenir ce piano. Et quand j'ai mis mes mains sur le piano pour commencer, je me rappelle, je commençais avec l'impromptu en si bémol de Schubert, qui est le ciel, oh là là. Quand j'ai mis mes mains, j'ai dit au Seigneur, t'oublie pas, hein, c'est toi, tu touches les âmes. Bon, je vais faire de mon mieux, c'est promis, je ferai de mon mieux. Et ça, c'est resté. Ça, c'est resté pour toute ma vie. Je n'ai plus jamais dit qu'un piano était mauvais, parce que quand j'ai terminé le morceau, je me suis dit, bon, je vais quand même maintenant me tourner vers le public et leur dire, on arrête là, on va boire un verre.
Parce que ça, ce n'est pas très juste.
Quand
quoi,
même,
piano,
c'est pas fameux. Et que les deux premiers rangs, les gens que j'ai vus avaient les visages baignés de larmes. Je n'ai même pas ouvert la bouche, je me suis rassise au piano et j'ai fait tout le programme. Et je n'ai plus jamais dit qu'un piano n'était pas bon. Non, entre nous, hein, quand le piano est très bon, je dis au Seigneur, c'est quand même plus facile hein, quand il est bon.
Elisabeth Sombart, j'aimerais qu'on parle un instant de Résonance, de cette fondation Résonance que vous avez créée en 1998. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu la mission de la Fondation. Je sais que vous pourriez nous en parler pendant des heures, parce que c'est une vraie passion que vous menez dans différents pays pour faire vivre cette Fondation. Quelles sont les missions de la Fondation?
Bon, on va dire qu'il y en a deux, pour faire court. La première, c'est donc de porter la musique dans les lieux de souffrance, dans les lieux de solidarité. Donc là, on en fait 500 par an, moi, mais aussi tous mes professeurs, tous les pianistes de Résonance.
Près de 500 concerts par an dans,
oui, dans les 7 filiales.
Ouais, ouais, ouais. Il y a 7 filiales Résonance oui, aujourd'hui dans
au Liban, en Roumanie, d'où je viens, en Espagne, en Italie, en France, en Belgique, en Suisse. Et ça, c'est, disons, cette mission. Mais c'est lié à... l'école qui est aussi l'enseignement, donc la pédagogie résonance qui est cette synthèse et cet enseignement de la phénoménologie du son qui vient de Chilibidache et la phénoménologie du geste qui a été induite au départ par cette professeure dont je vous ai parlé, Hilde Langerhüll, en Autriche. Donc dès que quelqu'un... on a des professeurs dans les écoles, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de limite d'âge, donc on a beaucoup de gens qui ont commencé le piano à 77 ans même. Je me souviens d'une, malheureusement elle nous a quittés, là, qui a travaillé à l'école, elle m'a dit, elle était chapelière, on dit en français, et elle me dit, toute ma vie j'ai rêvé de jouer du piano comme un rêve inaccessible, si j'avais su que à ma retraite, dans ma vieillesse... Et de 77 ans à 85 ans, elle avait fait pas mal de progrès, je me souviens. Et quand un élève est prêt chez nous, on l'emmène dans un lieu de solidarité pour jouer. Comme ça, il voit. C'est pas un bon point qui va... D'ailleurs, Beethoven déjà le disait. les récompenses, ça sert à rien. La vraie récompense est intérieure. Et en fait, quand on les emmène jouer avec nous, ils voient tout de suite ce qu'ils ont dans les doigts et ce que ça apporte à des gens qui ont besoin. Voilà.
Voilà l'émission de Résonance. Nous arrivons à l'issue de cet entretien, Elisabeth Sombart.
Ça passe vite.
Eh oui, ça passe vite, une heure. Qu'est-ce qui vous aura finalement donné le plus de joie dans votre vie ? Vaste, énorme question.
Ah oui, vraiment. Oh là là. Qu'est-ce qui m'aura donné le plus de joie ?
Qu'est-ce qui vous donne le plus de joie ? Oui. Pas forcément au passé.
Oui, la joie, c'est comme la paix, ça n'a pas de contraire, en fait. Ce qui me donne la joie, c'est que finalement, la beauté est plus forte que la laideur. L'amour est plus fort que la haine. Je vais dire des choses bêtes, hein, je m'excuse.
Non, on va dire fondamental plutôt.
C'est pas intelligent de dire basique. Ça, mais c'est ce que je pense vraiment, c'est que, voilà, vous allez dans un pays où il y a la guerre, où c'est abominable, mais il va y avoir un geste d'amour d'un enfant ou de quelque chose, ou une jonquille qui sort. Il y a toujours, la vie est toujours plus forte que tout. Et c'est la seule chose qui ne vous trahit jamais.
Merci beaucoup, Elisabeth Sombart. Merci de nous avoir accueillis ici à Résonance, à Morges, ensuite près de Lausanne. Et puis, bien sûr, tous les extraits musicaux que nous avons entendus au cours de cette émission sont extraits de différents CD que vous avez enregistrés vous-même, Elisabeth Sombart. Merci de votre accueil.
Merci beaucoup.
Visage. Une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.